Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Nathalie Cardon.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau magazine de Vivante Église. Aujourd'hui, on va aborder le thème du harcèlement. Le harcèlement scolaire, un sujet grave et malheureusement trop répandu de nos jours. Il peut avoir des effets dévastateurs sur les personnes qui en sont victimes. Le harcèlement scolaire ou harcèlement en milieu scolaire est une forme de violence répétée qui peut être verbale, physique ou psychologique. Il peut se manifester sous différentes formes telles que moqueries, insultes, menaces. Et les conséquences du harcèlement sont souvent graves et durables. Aujourd'hui, dans ce beau plateau de Vivante Église, je reçois des acteurs de ce thème du harcèlement. Je salue tout de suite Sandra. Bonjour Sandra.
Bonjour.
On va vous découvrir dans un instant dans votre propre témoignage et expérience autour de ce sujet que nous allons traiter ensemble. À vos côtés, c'est le futur ambassadeur contre le harcèlement scolaire et cyberscolaire pour la région Occitanie, et c'est Stéphane. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Alors, ravi de vous accueillir. À vos côtés, c'est une maman. Elle se prénomme Marie et on vous retrouvera, je ne sais pas à quel moment de cette émission de Vivante Église, pour votre témoignage de maman, puisque vous avez deux enfants, filles et garçons, qui ont subi le harcèlement, un harcèlement qui avait commencé dès la maternelle. Alors on est bien entouré aujourd'hui pour ce plateau de Vivante Église. À mes côtés, Valérie Jonquière. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Alors vous êtes ici autour de cette table, un peu la spécialiste, vous êtes psychopraticienne et vous avez pour clientèle donc des enfants, adolescents, adultes et professionnels. Je l'ai annoncé dans cette émission de Vivante Église. On retrouve tout de suite, et merci à vous Sandra, vous êtes une jeune femme aujourd'hui âgée de 32 ans et vous avez vécu et subi le harcèlement. Et on va vous écouter attentivement de la classe de 6e, donc entrée au collège, jusqu'en classe de première, le lycée. Alors, comment cette histoire de harcèlement a débuté dans votre vie? Et merci infiniment.
Merci à vous, surtout. Alors moi, mon histoire, elle s'est étalée sur énormément d'années de scolaire, parce que ça a duré de la 6e à la première, donc c'est majoritairement pratiquement toute ma scolarité, en fait. Et ça s'est installé très doucement. Au début, j'y faisais pas forcément très attention parce que c'était surtout des moqueries liées à mon physique, des surnoms. Voilà, c'était pas spécialement méchant. Sauf que ce qui était au début des moqueries s'est très vite transformé en acte. On abîmait mes affaires, en fait. Dès que je sortais en cours de récré, on mettait mon sac dans les toilettes, on mettait mon sac dans les poubelles, mes affaires aussi. On me renversait du yaourt dans le sac. Voilà, donc j'ai très vite arrêté d'aller en cours de récréation, tout simplement. Et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse terribles. Alors au début, c'était à la sonnerie de la récré, mais par la suite, ça s'est empiré. Et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse dès l'entrée dans l'établissement, en fait, dès le matin. Donc j'ai développé une phobie scolaire. Et ensuite, ça s'est allé assez crescendo. C'était de plus en plus virulent, malgré un changement d'établissement. Ça a repris. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé à m'envoyer des chewing-gums dans les cheveux, en plein cours. Et donc, ça a encouragé encore plus le harcèlement, dans le sens où, pour m'enlever les chewing-gums, comme j'étais jeune et un peu bête, je coupais mes mèches, tout simplement, en fait. Je cherchais pas d'autre solution. Et donc, j'avais des troubles à la tête, donc forcément, on se moquait encore plus de moi. Et en fait, un jour, ça a été le chewing-gum de trop. Et la tristesse s'est transformée en haine et en rage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en plein cours de maths, je me suis levée en plein milieu de la classe et après avoir reçu un énième chewing-gum dans les cheveux, Et j'ai attrapé la tête de mon harceleur et je l'ai plaqué très violemment sur le bureau. Donc voilà, j'ai été renvoyée parce que bah, c'est un geste extrêmement violent et je lui ai cassé le nez quand même. Et au moment de l'entretien avec la directrice, comme moi j'avais une envie irrépressible de quitter cet établissement, j'ai pas cherché à me défendre. J'ai dit ok, oui, je l'ai agressé, je suis d'accord, renvoyez-moi. Et donc j'ai été renvoyée et ça s'est arrêté là parce que dans l'établissement où j'ai atterri après, il n'y avait plus de harcèlement. Et
parce que vous avez fait 3 établissements, je crois, Sandra.
Oui, voilà, ouais, c'est 3. Ça.
Et on peut dire que le harcèlement s'est échelonné, 6e, 5e, classe de 4e, 3e, 2e et 1e. Alors comment on vit tout ça et comment on en parle à ses parents?
Alors moi, j'ai jamais parlé à personne de ce harcèlement parce que en fait, j'ai pas eu la chance d'avoir une mère très à l'écoute. Mon père l'était, mais ils étaient séparés. Et les rares fois où je le voyais, j'avais pas envie. En fait, j'avais d'une part très honte d'être harcelée à l'école pour mon physique, en fait, parce que. Donc mon père, ce qu'il faut savoir, c'est que mon papa, pour lui, je suis l'étoile de sa vie, la prunelle de ses yeux.
La princesse,
et voilà,
de sa vie.
Voilà, sa princesse, et forcément, sa petite fille, elle est magnifique, et elle ne peut pas se faire harceler parce qu'elle est moche. Et en fait, si, c'était le cas. Et je n'osais pas lui dire, donc je n'avais pas envie d'y en parler. Et ma mère, on était à un point d'échange qui était insuffisant pour que je le lui dise concrètement.
Vous avez protégé votre propre père?
Oui. Oui.
Donc vous, victime, harcelée, encore enfant, adolescente, vous protégez. Valérie Jonquière, psychopraticienne, est-ce que vous pouvez nous donner un peu une analyse, une indication sur ce témoignage de Sandra?
Alors Sandra, elle parle d'une période de sa vie où elle était déjà adolescente. Donc quand on est adolescent, ce que l'on recherche, c'est d'être intégré dans le groupe. Donc c'est vrai que si on entend surtout son témoignage, c'est qu'elle a été poussée à bout. C'était de la violence qui l'a fait sortir de cette situation terrible de harcèlement quand même. Donc là, il faut se poser la question de l'espace qui n'était pas présent pour elle, pour pouvoir se sentir capable d'aller dire à des adultes je suis en souffrance, je vis une situation totalement injuste. Donc c'est vrai que ça a duré quand même plusieurs années. Donc on imagine que au niveau de la confiance en soi et de l'estime de soi, ben, ça fait d'énormes dégâts, hein, c'est évident. Et puis, il y a eu le moment de trop où là, c'était devenu insupportable pour elle. Et ce que Sandra a dit aussi, c'est qu'elle a pu penser à des moments d'en finir aussi, hein, parce que bon, le harcèlement, c'est pas que des taquineries. Malheureusement, on parle aussi dans certains cas de jeunes qui n'ont tellement pas supporté qu'ils ont dû mettre fin à leur jour. Quoi.
Et vous avez fait plusieurs tentatives de suicide. Nous avons préparé ce plateau de Vivante Église sur ce thème du harcèlement. Vous en avez fait combien?
J'ai fait 3 tentatives de suicide échelonnées. En fait, j'en ai fait une en 5e, une en 3e et une en 2e. Voilà, j'en pouvais plus. Quoi.
Alors aujourd'hui, elle en est où, cette femme trentenaire? Avec cette histoire qui s'est inscrite dans votre histoire de vie malgré tout, où vous avez traversé, puisque vous êtes aujourd'hui ici, hein, dans ce plateau. Racontez-nous.
La trentenaire que je suis aujourd'hui, c'est une femme qui a de la confiance en soi, de l'estime d'elle-même aussi. Et c'est d'ailleurs le message, je pense, que je peux dire aux victimes de harcèlement, c'est que... Quand on parle d'abord, c'est parler, c'est pas garder pour soi. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite, donc c'est pour ça que je me permets de donner ce conseil, c'est qu'il ne faut surtout pas garder tout pour soi comme je l'ai fait. Il ne faut pas chercher à protéger ses parents comme je l'ai fait aussi. Il faut tout de suite en parler à un adulte et même à des professionnels, parce que moi j'ai été suivie.
Vous avez été suivie très vite. À quel moment vous avez
rapidement
commencé à être suivie par des professionnels?
J'ai commencé à être suivie pour ma phobie scolaire déjà à la base. Donc quand j'ai fait une tentative de suicide, j'étais déjà suivie.
Et les parents qui vous écoutent, ou peut-être des grands-parents qui écoutent cette émission, on peut paniquer à l'idée de se dire que mon petit-fils ou mon enfant qui rentre en maternelle ou au collège va peut-être subir ce harcèlement. Un mot pour chacun?
Être présent pour son enfant, l'écouter. Et surtout, ne pas lui dire le conseil que m'avait fait ma mère à l'époque. Laisse-les parler, ignore-les, ils s'arrêteront tout seuls, parce que ça s'arrête pas quand on les ignore. Et c'était un très mauvais conseil, donc surtout ne dites pas ce conseil-là à votre enfant. Je pense qu'il faut vraiment lui libérer la parole, lui donner l'espace, comme l'a dit Valérie, pour s'exprimer et peut-être voir un suivi. Ça peut être intéressant, oui.
Alors, merci à vos côtés dans ce plateau Vivante Église. Il y a Stéphane. Bonjour Stéphane. Voilà. Vous avez 18 ans.
Oui, hein, tout à fait.
Voilà. Et vous êtes surtout, ça c'est un peu votre titre, le futur ambassadeur sur ce thème contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement. Et vous avez aussi votre propre histoire, puisque vous avez, Stéphane, subi pendant plusieurs années ce harcèlement. Alors racontez-nous, tout comme un peu Sandra, pour qu'on puisse comprendre un peu le fil conducteur de ce que peut être, donc avec des témoins vivant ce genre de harcèlement. Quelle est votre histoire? Et merci.
Pour être plus simple avec vous, moi j'ai vécu du harcèlement scolaire tout au long de mon année, de 6e et 5e. Ça a commencé par des bousculades, on m'a humilié, on m'a bousculé, insulté, menacé. On s'est permis de se moquer sur ma personnalité. On s'est permis aussi de plaisanter sur mes notes, soi-disant parce que j'avais des graves difficultés. Donc on m'humiliait devant les adultes. Les adultes laissaient faire. Laisser abattre les choses. Je n'ai pas pu en parler par mes parents parce que c'était très compliqué d'en parler avec mes parents.
Est-ce que je peux vous demander pourquoi c'était si compliqué? Parce que quand on entend des victimes, on entend bien cette difficulté, on l'a entendu il y a un instant avec Sandra, de libérer finalement la parole auprès de ces adultes qui sont les parents, les premiers qui devraient être en capacité d'être à l'écoute et d'accueillir.
C'est pas simple lorsqu'il y a le conflit de groupe, quand lorsqu'il y a plusieurs personnes qui sont contre une personne. Moi, j'ai pas été accepté par plusieurs personnes parce qu'on m'a jugé sur mon physique, on m'a rejeté. Et puis, c'est pas simple d'en parler puisqu'en réalité, il y a ce conflit de groupe. Et lorsqu'on est seul, c'est un peu compliqué. Donc j'étais renfermé sur moi-même.
Et vous vous êtes isolé?
Oui, je me suis isolé parce que c'était pas simple d'en parler. Mais que ce soit les adultes, parce que les adultes, ils étaient pas très à l'écoute. Et puis moi.
Et vous comprenez pourquoi ces adultes n'étaient pas très à l'écoute aujourd'hui, vous, futur ambassadeur contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement? Est-ce que vous avez des réponses?
Il y a un réel manque d'effectifs en premier temps, et puis c'est surtout qu'il y a de réels soucis par rapport aux formations.
Ou alors tout simplement, peut-être on
ne
veut pas se former.
Pas forcément formés.
Ou on veut pas voir.
Et puis, ils n'ont pas le temps. Moi, en tant que professionnel, de l'équipe éducative,
oui,
en tant que service civique dans une école, je peux vous garantir qu'ils n'ont pas le temps de parler de harcèlement scolaire. Moi, mon objectif, c'est de tout faire. Alors, je ne pourrais pas supprimer le harcèlement scolaire, ça, c'est pas possible. Mais faire de la sensibilisation et de la prévention auprès des
Est-ce qu'on en fait assez de la sensibilisation aujourd'hui, Stéphane?
Il y en a, mais il n'y en a pas suffisamment. Il en manque.
Quelles sont les carences? Quels sont les manques? Et quels sont au fond les défis?
Le défi, c'est de pouvoir que les élèves s'entendent. On est dans une génération où c'est un peu compliqué parce qu'on n'apprend pas le respect dès le plus jeune âge. Donc ça c'est une responsabilité des parents, mais c'est aussi la responsabilité des adultes. S'il arrive quoi que ce soit à un jeune, il faut que l'adulte fasse quelque chose et qu'il agisse. Moi, quand j'étais harcelé, je n'étais pas senti à l'écoute. Et d'ailleurs, on m'a rejeté de l'établissement où j'étais.
Quels sont ces adultes ou l'adulte qui a été à la bonne écoute pour faire un peu avancer votre histoire ?
Mon oncle, qui a pu faire bouger les choses. Et d'ailleurs, je me rappelle très très bien, lorsque ça allait pas du tout et que j'avais un craquement, je l'ai appelé, j'ai dit, écoute, c'est plus possible, j'ai un changement de comportement, mais mes parents ne me comprenaient pas. Et donc, ma famille était beaucoup soudée. Ils m'ont beaucoup soudé lorsque, quand j'étais victime. Ils m'ont dit, il y a quelque chose qui ne va pas, t'es pas comme d'habitude. Parce que de base, moi, je suis quelqu'un qui sort, qui ne se renferme pas sur soi-même. Je suis quelqu'un qui s'affirme beaucoup, même si j'avais pas mal de timidité. Et j'étais quelqu'un sans histoire. Et lorsque, quand j'ai eu un changement de comportement vis-à-vis de mes parents, ben, y a mon oncle qui a remarqué quelque chose, que ça n'allait pas du
tout.
Qu'est-ce
qu'il a remarqué ? Vous rappelez ce moment où vous attirez un peu son attention ?
Ben, que ça n'allait pas du tout. À chaque fois que je rentrais chez moi, je me plaignais. Je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas aller à l'école.
Il y avait des maux de ventre, des douleurs
Alors pas de maux de ventre. Les notes, elles étaient plutôt correctes, puisque moi je ne voulais pas donner raison. Je n'avais pas de tentation de suicide. J'y pensais à un moment.
Pas comme Sandra qui, elle, a fait plusieurs tentatives. Vous n'avez jamais pensé faire ne serait-ce qu'une tentative.
J'ai eu des pensées, mais je ne voulais pas donner raison à ces gens. Franchement, je continue.
Vous êtes tombé dans un état dépressif ?
Non, du tout. Non, du tout. Je n'étais pas en burn-out, mais j'avais ce changement de comportement qui dénigrait vis-à-vis de mes parents.
Alors, l'oncle
s'est-il
pris pour...
Et mon oncle est venu me voir. Il est venu me voir directement en me disant, il y a quelque chose qui se passe. Puisque lui, il a été, on peut dire, entre parenthèses, façon de parler, formé sur le harcèlement scolaire. Et du coup, il m'a dit, il y a quelque chose qui se déroule là, ça va pas du tout. Et c'est à ce moment-là où il est venu me parler, il est allé voir mes parents, parce que moi, je voulais pas en parler, de base.
Et vous c'est avez, là où mes parents... Vous avez quel âge, hein, pour vous resituer un peu
15 ans.
15 ans.
C'était en 6e, donc pendant quelques mois, j'en ai caché. J'ai caché. Il y a eu ce changement de comportement. Mais à force, il fallait que j'en parle. Parce
et alors,
que c'était plus possible.
Vos parents, comment ont-ils réagi
Ils étaient assez surpris. Ils ont commencé à dire, mais pourquoi tu n'en parles pas? Mais le souci de ça, c'est que j'avais peur de ce conflit de groupe. Parce que lorsqu'on est plusieurs à s'en prendre à un, bah, je peux vous garantir que c'est quelque chose de difficile à en parler. Sauf que je ne voulais pas me laisser abattre. Du coup, j'ai dit la vérité à mes parents. J'ai dit, ça ne va pas. Au collège, je me fais harceler. Je ne connaissais pas la définition du harcèlement scolaire. Donc, je ne savais pas. Moi, au début, j'ai cru que c'était des moqueries... Voilà, je croyais que c'était pour plaisanter, mais finalement pas du tout. Et c'est là où mes parents m'ont dit, effectivement, tu te fais harceler. Ils sont allés se plaindre à la direction en disant, bah, écoutez, si vous ne faites pas quelque chose, on porte plainte. On est allé porter plainte, mais ça n'a rien fait. Malgré tout, je suis parti dans un autre établissement, donc c'est-à-dire que la victime est partie et le harceleur est resté dans l'établissement.
Tout comme le témoignage de Sandra qui est à vos côtés, elle aussi a changé d'établissement. C'est le seul moyen pour dépasser et pour se reconstruire.
Me reconstruire.
Donc il y a une fuite.
Au début, mes parents...
La victime, face aux agresseurs, est obligée de fuir le terrain qui est miné. C'est, quand on entend votre témoignage, Stéphane, celui de Sandra, on comprend bien qu'il faut quitter le lieu. Le lieu devient trop dangereux.
Mes parents n'ont pas souhaité donner raison à l'établissement. Parce qu'au début, ils ont cru que c'était moi qui harcelais les autres.
Donc
parce qu'il y avait
début,
plusieurs...
ils ne vous ont pas cru.
Non, ils ne m'ont pas cru. Parce qu'il y avait plusieurs personnes contre moi. Et donc c'est à ce moment-là où ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose. Mais pas de suite. Des années après. Où ils se sont dit, effectivement, Stéphane s'est fait harceler. Sauf que j'étais plus parti. Enfin, je suis parti de cet établissement. Je ne faisais plus partie de cet établissement. Donc je suis parti ailleurs. Dans un autre département, j'ai dû partir, me séparer de mes parents, j'ai dû partir en internat pour la première fois, où ça a été un peu compliqué. Et sauf que mes parents m'ont dit, t'as pas le choix, il n'y a que ça comme collège, il n'y a que eux qui peuvent t'accepter, puis en plus t'as pas mal de difficultés, donc j'avais pas le choix. Et façon, sur les difficultés, c'est parce que j'avais de graves difficultés à cause de mon vécu. Voilà. Et puis j'étais quelqu'un d'hypersensible, je ne parlais peu avec les gens. Donc je suis partie dans un établissement.
Je vous ferai réagir Valérie Jonquière, psychopraticienne, après ce temps de pause musicale. On respire un peu, hein, oui, parce qu'on entend des expériences et des témoignages qui sont lourds et percutants. Donc pause musicale et à tout de suite. Thank you.
présence. Vivante Église, Nathalie Cardon.
Suite de cette émission Vivante Église avec ce thème qui est chargé aujourd'hui, chargé aussi avec ces témoignages que vous avez entendus, chers auditeurs, sur le harcèlement scolaire, avec le témoignage tout au début de Sandra et de Stéphane que nous allons retrouver tout au long de cette émission. Valérie Jonquière, face au témoignage de Sandra et puis le tout dernier de Stéphane qui a subi ce harcèlement durant 2 ans, qui a été obligé de changer de collège, de partir dans un collège en tant qu'interne. Les parents ne comprennent pas, ne croient pas complètement aussi Stéphane. Comment vous pouvez vous réagir en tant que professionnel?
Alors, il faut savoir que la victime va toujours se sentir coupable de ce qui lui arrive. C'est terrible, mais c'est comme ça. Donc, en parler à ses parents, on n'en a pas envie. Parce qu'on a l'impression qu'on est responsable et qu'on n'arrive pas par nous-mêmes à sortir de cette situation. Or, le harcèlement, c'est plus compliqué que ça. C'est un mécanisme de groupe. Ça existe parce qu'il y a une personne qui va être harcelée par un agresseur. Et autour, il y a des personnes qui vont entretenir et nourrir cette relation toxique.
C'est ça.
Du coup, l'effet de groupe est un vecteur réel du harcèlement. Et les témoins, ils ont peur de réagir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de devenir à leur tour une victime. Donc du coup, c'est très très compliqué pour les témoins qui vivent autour du harceleur. Maintenant, ce qui semble assez important à dire, c'est que à l'heure actuelle, avec les nouvelles recommandations mises en place par l'État, le harceleur est censé quitter l'établissement. Ça, c'est quand même nouveau. À l'époque de Stéphane et de Sandra, ce n'était pas le cas. Donc effectivement, dans les deux situations, ce sont eux qui sont partis. C'est double peine pour la victime. La victime vit le harcèlement, mais alors en plus, elle quitte l'établissement où elle avait peut-être des amitiés, etc. Puis c'est pas à elle de partir, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est important de voir, c'est que pour l'un et l'autre, l'espace pour entendre leurs doléances, c'est-à-dire leurs difficultés, leurs souffrances quotidiennes, parce que c'est du quotidien, hein, on a entendu parler de plusieurs années, l'espace n'était pas particulièrement là pour permettre la délivrance de cette parole. Donc, les parents sont désarçonnés. Il y aura toujours un changement de comportement chez l'enfant qui peut se traduire de plein de façons différentes.
Alors, vous qui êtes professionnel et qui accueillez parfois aussi dans votre cabinet ces enfants, ces adolescents, voire ces adultes, quels conseils vous pouvez donner aux auditeurs qui suivent cette émission aujourd'hui ?
Alors, le premier conseil que je pourrais donner, c'est que les adultes doivent reprendre leur place d'adulte. C'est-à-dire que ce sont eux qui sont les modèles pour les enfants, dès le plus jeune âge. La façon dont les parents vont se comporter devant les enfants dans leurs interactions de chaque jour va être pour l'enfant le modèle et comment lui va se comporter avec les autres. Donc déjà, au niveau des parents ou des personnes qui entourent l'enfant, c'est très important. Ensuite, au niveau de l'école, au niveau des collèges, des lycées, je pense qu'il faut réellement créer des moments où on peut parler un peu de l'ambiance de la classe. Parce qu'on peut apprendre que si on est dans de bonnes conditions. Donc, si il y a du harcèlement dans une classe, alors effectivement, la victime est touchée. Mais les témoins qui vivent tout ça autour ne sont pas non plus dans de bonnes conditions pour apprendre. Donc, c'est vraiment réfléchir à remettre un peu du vivre ensemble, je ne veux pas le dire différemment, se respecter, on est tous différents, donc ça ne changera jamais. Mais apprendre à aussi affirmer ses droits, à pouvoir dire quand on trouve une situation injuste. Donc, créer vraiment ces espaces-là. Pour moi, c'est le principal. Ensuite, il faut s'adresser à la victime. La particularité dans le harcèlement, c'est lorsque la victime n'est pas reconnue en tant que victime. C'est très grave, hein, parce qu'elle ne peut pas mettre en place une reconstruction tant qu'elle n'est pas reconnue en tant que victime. Donc,
On entend bien, hein, et merci Valérie Jonquière. On parle de ce harcèlement scolaire, on pourrait peut-être aussi évoquer le cyberharcèlement. Alors, on en est où aujourd'hui dans ce cyberharcèlement qui peut aussi être dévastateur, même si c'est un cyberharcèlement en ligne derrière un écran, il fait des dégâts. On vous écoute, Stéphane, je vous vois dire oui, oui, oui. Vous avez été victime de ce cyberharcèlement, directement ou indirectement ?
Oui, effectivement, j'ai été victime à la fois de harcèlement scolaire, mais en même temps du cyberharcèlement. Le harcèlement scolaire s'est amplifié sur les réseaux sociaux. Et peu importe, qui que ce soit dans le monde entier peut vous contacter sur les réseaux. Donc oui, j'ai été cyberharcelé pendant plusieurs mois. Et la seule technique qu'on m'a donner, c'est de bloquer la personne. Sauf qu'en réalité, cette personne est venue avec d'autres comptes anonymes, pseudonymes. C'est moi qui ai supprimé carrément les réseaux sociaux pour qu'on me laisse tranquille en paix.
Alors comment on vit tout ça ? Comment on traverse tout ça, Stéphane ? Je rappelle que vous avez 18 ans, oui ?
C'est pas simple. Le cyberharcèlement, on peut le vivre. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de jour pour vivre du cyberharcèlement. Il y a tellement de tout sur les réseaux sociaux, c'est évacué de plein de choses. Et moi, je le suis toujours cyberharcelé sur les réseaux sociaux. Mais j'ai quand même eu cette petite partie de sécurité où il y a eu plein de soutien, plein de gens qui m'ont épaulé, qui m'ont vraiment aidé. Et c'est grâce à ça qui peut m'épauler. Je compte sur le soutien des autres et je compte aussi rencontrer tout le monde, et c'est ça qui me permet de réussir et d'accepter ça.
Oui, vous avez envie d'être, donc je vous ai présenté depuis le début comme ce futur ambassadeur contre le harcèlement. Ça va consister en quoi, cette mission qui va finalement débuter d'ici quelques temps?
Tout d'abord,
quels sont les objectifs?
Tout d'abord, je compte me former en décembre et en mars, donc ça va être une grande période de formation pour que je puisse un peu plus m'orienter et savoir un peu plus ce que c'est vraiment véritablement le harcèlement scolaire et qu'est-ce qui cache exactement derrière. Et c'est autant pareil pour le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Et le rôle d'ambassadeur, c'est sa promotion d'accompagner les victimes, d'intervenir, de sensibiliser auprès des écoles, de prévenir surtout et développer des outils avec des ressources adaptées.
Donc prévenir, c'est aussi témoigner comme vous le faites aujourd'hui, chacun. À vos côtés, une maman, parce que vous avez témoigné, Sandra, Stéphane et puis Valérie. C'est une maman qui va prendre le micro. Alors, vous n'avez pas, vous, été harcelée directement. Vous êtes maman d'un garçon âgé de 18 ans aujourd'hui, ou c'est la fille,
ouais.
Vous avez fille et garçon,
oui, c'est
donc
ça.
C'est 15 et 18 ans.
Ouais.
Donc, c'est 15 ans pour le garçon, 18 ans pour votre fille. Je fais court, c'est pas une synthèse, mais ils ont vécu et subi ce harcèlement très jeune,
oui.
Dès la maternelle. Est-ce que vous pouvez nous décrire, en tant que maman,
oui,
comment vous avez découvert et puis accompagné et vous-même vécu?
Oui, ça a commencé quand ma fille avait 6 ans, donc en CP. Donc j'ai ressenti petit à petit des malaises, un changement de comportement, d'attitude, et elle avait voulu couper ses cheveux, elle avait même voulu, elle m'avait demandé si on pouvait changer la couleur de ses yeux, elle avait même voulu couper les cheveux, voilà. Donc changement, elle voulait changer d'aspect, donc peut-être qu'on l'a...
Sur son physique,
oui,
ça rejoindrait un peu le témoignage de Stéphane et Sandra sur leur physique.
On lui avait dit qu'elle sentait mauvais.
Elle avait quel âge à l'époque?
Elle prenait sa douche tous les jours.
Oui.
Elle avait 6 ans.
6 ans,
7 ans. Les CP, c'est 20. les 2 années. Et voilà. Et voilà, donc elle a des voiles sur le physique, tout ça. Et puis après, donc on sent le changement d'attitude. Et moi, j'étais très à l'écoute, en tout cas, toujours de mes enfants et des petits signes comme ça. Et puis, quand je sentais quelque chose, je leur demandais de parler. Donc, l'échange, je les poussais à s'exprimer et à me parler.
Ah, oui,
je l'ai poussé. Ça, je sentais les petits signes. Et là, je l'ai poussé de suite. J'étais très attentive.
Donc,
vous avez été une
maman. Je vous vois sourire, Sandra et puis Stéphane. Quand vous entendez le témoignage de Marie, Stéphane, c'est une maman qui est à l'écoute, pour le coup.
Ben, pour le coup, ça ressemble un petit peu à mon témoignage avec mes parents. Ça me touche beaucoup, ça me bouleverse.
Oui, je vois ça. Ah oui, c'est un sujet sensible, parce que quand on parle de harcèlement, on parle de blessures profondes, d'attaques profondes, personnelles. Et pour votre fils, Marie, ça s'est manifesté comment,
oui,
ce harcèlement?
Oui, alors justement, suite à ces 2 années qui commençaient à être difficiles, parce que ma fille aussi me disait qu'à la cantine, on la laissait pas s'asseoir manger avec le groupe, donc elle était même isolée, elle mangeait toute seule, et elle en pleurait. Donc, et à la fin de l'année, une surveillante m'a confirmé ça, alors qu'elle m'avait rien dit avant. J'aurais aimé qu'elle me le dise avant, mais elle a osé, parce qu'aussi les surveillants ont peur. En tout cas, cette surveillante en question a eu peur de m'en parler avant, elle a eu peur peut-être d'être licenciée ou je sais pas, mais elle m'en a parlé à la fin. Elle m'a dit, votre fille subit ça depuis longtemps. J'ai dit, mais il fallait m'en parler, quoi, plus tôt. Bon, enfin, voilà. Donc, elle a bien affirmé ça. Et une maman aussi, une maman d'une copine à ma fille, m'a aussi confirmé ça, que sa fille lui avait dit que ma fille était mise à l'écart à la cantine, toute seule.
Sandra, Stéphane, vous avez envie de réagir? Non? Je me tourne vers notre spécialiste professionnel aujourd'hui dans ce Vivante Église. Quand vous entendez, Valérie Jonquière, le témoignage de cette maman, ça ressemble un peu à tous les témoignages que vous pouvez parfois entendre, puisque vous avez votre cabinet, que vous avez des consultations et vous accompagnez adultes, enfants et adolescents. Donc qui dit enfant, adolescent, dit parfois parents, et des parents eux-mêmes confrontés à...
Oui.
Au harcèlement scolaire de leurs enfants.
Du coup, dans le cas de Marie, donc, sa fille était plus jeune que dans le cas de Sandra et Stéphane. Donc, ça change quand même les choses. Comme on disait tout à l'heure, à l'âge de l'adolescence, on se tourne plus vers le groupe. Quand on est une petite fille ou un petit garçon de 6 ou 7 ans, bon, ben, voilà, on va quand même plus observer un peu papa et maman, voir un petit peu. Donc, c'est très bien parce que Marie a pu permettre à sa fille de parler. Donc, déjà, la petite fille s'est sentie reconnue dans sa souffrance. Donc, ça peut tout changer à partir de là.
Alors, il y a souffrance des enfants de Marie, mais au fond, j'ai bien envie de réagir en disant, mais il y a souffrance également d'un parent qui est face à cette douleur de harcèlement.
Totalement.
Comment vous les accompagnez, Valérie?
Alors, l'idée, c'est de pouvoir arriver à ne pas culpabiliser aussi, parce qu'il peut y avoir des parents qui peuvent aussi culpabiliser de ce qui arrive à leurs enfants. Donc, vraiment, il faut essayer de voir avec l'enfant ce que l'enfant souhaite. Hein. C'est-à-dire, est-ce que l'enfant a envie qu'on lui donne les moyens pour sortir lui-même de cette relation toxique, ou est-ce qu'il veut et a besoin que ce soit des adultes qui prennent réellement ce rôle-là? Ça, c'est vraiment important parce que on considère la victime, on considère l'enfant, on considère le jeune. Donc, on lui donne cette place-là. Il ne faut pas oublier qu'on a entendu parler d'isolement. Elle n'avait plus de place, cette petite fille. Donc, se sentir rejetée comme ça, c'est extrêmement douloureux quand on est dans la construction de son identité. Donc voilà, la première des choses à dire aux parents, qu'on peut vraiment rassurer aussi les enfants dans le fait que ça ne les enferme pas non plus, en tant que victimes, leur permettre aussi de développer d'autres compétences à côté de celles qui sont aussi rattachées à l'école, pour redonner un peu confiance en soi à l'enfant, hein, parce que ne jamais oublier que la confiance en soi n'est jamais figée. Elle, c'est chaque jour qu'on peut la nourrir, cette confiance en soi. Donc, en tant que parent, il est important de se positionner en montrant à l'enfant qu'il peut avoir une place très importante au sein de la famille. Il peut avoir cette place qu'il n'a plus finalement au sein de ce groupe scolaire. Donc, lui redonner confiance en faisant un peu diversion, si vous voulez.
De quelle manière ? Qu'est-ce que vous entendez par diversion ?
Justement, en essayant de voir si l'enfant fait par exemple une activité hors temps scolaire, hein, de l'encourager d'être dans des moments où on va pouvoir lui montrer que ce qu'il fait est bien, le valoriser, voilà, et qu'il ne se sente pas seul, et voilà, donc c'est vraiment important.
Merci Valérie Jonquière. Vous validez, Stéphane, notre spécialiste de l'émission aujourd'hui, professionnel, il faut encourager, il faut valider, parce que autour de cette table, vous avez été deux directement avoir vécu et subi ce harcèlement, Sandra et Stéphane, on l'imagine, il faut retrouver cette estime de soi, cette confiance en soi.
Mais de toute façon, la confiance est un élément fondamental dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Moi, quand j'ai été victime de harcèlement scolaire, j'étais quelqu'un d'hypersensible. Je parlais peu avec les gens, et d'ailleurs aujourd'hui, je remercie infiniment un hypnothérapeute qui m'a beaucoup aidé à parler et à discuter, parce qu'avant, je n'étais pas comme ça. J'étais plutôt réservé dans mon propre truc. J'étais réservé dans mon propre travail, j'étais avec mes parents, j'étais avec ma famille et c'est tout. Je ne parlais pas du tout avec les gens. Quand j'étais victime de harcèlement scolaire, j'avais les témoins. Et même les témoins ne parlaient pas vraiment.
Les témoins avaient peur. Cette peur a été nommée par notre maman ici présente. C'est un sujet qui reste, on ne l'a pas dit ce mot, mais ce sujet de harcèlement, on en parle aujourd'hui. Il y a des émissions, mais c'est un sujet toujours sensible et un peu tabou encore, parce qu'on parle de choses graves qui peuvent porter atteinte à des personnes. Il y a eu des suicides de jeunes, donc ça dit la tragédie et la gravité. Cette émission malheureusement va se terminer parce qu'elle arrive à sa fin. Je voudrais à chacun vous laisser peut-être un mot pour les auditeurs qui ont été sensibilisés de par aussi le témoignage des débuts de l'émission. Remercie chacun d'ailleurs. Un mot peut-être pour ceux et celles qui vont être alertés, sensibilisés, qui sont peut-être témoins aujourd'hui, alors ou en milieu scolaire ou en milieu professionnel, parce que quand on dit harcèlement, le harcèlement au travail existe aussi, voilà. Donc être attentif, je m'adresse à vous Valérie.
Oui. Alors ce qu'on peut dire quand même, c'est que les nouvelles générations s'expriment beaucoup plus facilement sur les émotions qu'elles peuvent ressentir.
On le voit.
Donc ça, c'est peut-être quand même, ça permettra à ces futurs ados de peut-être parler peut-être plus facilement de leurs difficultés. Et encore une fois, on doit mener une mission de prévention afin de déceler, dès les premières attaques, un harcèlement qui est naissant.
Donc, mission prévention harcèlement.
Oui, et action auprès des victimes directement.
Ouais. Sandra ? On vous a entendu tout au début avec votre témoignage. Si vous deviez aussi donner un mot à chacun et chacune qui vous ont suivi dans cette émission. Il y a encore du travail, on le sait, on l'entend.
Oui, oui. Mais c'est-à-dire que moi, si j'avais un mot à dire aux auditeurs, ce serait le même que j'ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment parler... C'est un peu bateau, on dit toujours ça dans le cadre d'un harcèlement, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire en fait. Il faut vraiment libérer la parole et en parler, même si on n'est pas forcément obligé d'être la victime, on peut être témoin. C'est important aussi d'en parler beaucoup.
Et pour vous, Marie, qui avez été témoin quelque part du harcèlement de vos deux enfants, filles et garçons, pour les auditeurs qui vous écoutent, peut-être certains parents qui se reconnaissent aussi à travers votre propre témoignage de maman.
Il faut être vraiment très attentif au changement de comportement des enfants, ça c'est important. avoir une bonne communication avec eux, qu'ils n'aient pas peur de nous parler, qu'ils aient super confiance en nous et qu'on les pousse dès le moindre. On le sent en tant que maman, en tant que parent. Bon, moi, le papa faisait moins attention à ça, mais moi j'étais vraiment très attentive et je décelais les signes et j'ai poussé à l'échange et à la communication, à ce qu'ils verbalisent surtout, qu'ils verbalisent tout ça et qu'ils me disent, j'insistais et voilà, c'est comme ça que j'ai pu en tout cas les soutenir jusqu'à ce qu'on en sorte. J'ai fait appel aussi, bien sûr, j'ai pris conseil auprès de spécialistes moi-même et j'ai emmené mes enfants voir des spécialistes pour qu'on leur donne des outils pour savoir comment gérer
oui. Et traverser
et en sortir surtout
et oui. En sortir ces moments de crise et en sortir, c'est important.
Pas avoir peur, parce qu'on assure, la peur bloque beaucoup, parce que l'enfant harcelé a peur de parler, en tout cas au CPE et au prof, parce qu'il a, en tout cas c'était le cas de ma fille, par peur que ça l'empire, c'était sa crainte que ça l'empire, en parlant, mais on a parlé quand même. Et puis ça a été un peu pire, mais ça s'est arrêté.
Merci, on vous arrête plus, Marie. Merci à tous les quatre. Merci Valérie.
Merci.
Jean-Pierre, donc psychopraticienne, et vous êtes sur Montauban. Voilà.
Ouais.
Donc on peut vous trouver facilement sur Google en tapant
tout
votre
à fait.
Nom.
Merci
à vous, Marie. Cet moment qui témoigne aujourd'hui dans cette émission. Merci à vous, futur ambassadeur contre le harcèlement et le cyberharcèlement, Stéphane.
Si j'avais juste une petite conclusion, oui. Dès l'année prochaine, moi je ferai en sorte d'avoir un peu plus de sensibilisation, établir un protocole clair, anticiper ensemble et l'importance de la bienveillance et du respect. Moi je vais beaucoup anticiper sur le harcèlement scolaire, c'est quelque chose d'important, parce qu'il faut savoir quand même qu'il faut créer un environnement de confiance, former et encourager un dialogue constructif. Je rappelle à chacun que c'est tous ensemble qu'on peut faire bouger les choses.
Merci infiniment, merci à tous les quatre, merci Sandra, Stéphane, Marie et Valérie. Au revoir.